Sujet général que je donnerai à ce que je vais dire ce matin pourrait être le suivant. Donc le thème général, le titre, c'est « Le ciel aussi a une histoire ». Le ciel aussi a une histoire. Et pour développer ce point, je m'appuierai tout principalement sur le livre de l'Apocalypse, comme ça a été dit. Alors, j'espère que vous connaissez tous l'Apocalypse par cœur. C'est important de lire l'Écriture, de s'en nourrir, d'en faire sa nourriture quotidienne. C'est très important. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé le livre de l'Apocalypse. Si j'avais un livre à recommander en français, je pense que je recommanderais le livre de William Hendrickson. C'est une traduction publiée par Grâce et Vérité. C'est Excelsis qui le diffuse aujourd'hui. C'est Plus que vainqueur. C'est un petit bouquin qui se lit très très bien. C'est pas un livre plein de notes qui fait allusion au grec constamment, ce genre de choses. C'est un livre, un bon commentaire qui donne déjà une bonne approche de l'Apocalypse. Et si je peux encore recommander un autre livre, c'est la Bible du Semeur, la Bible à notes, la Bible d'études, où je reprends pour différentes raisons certains des éléments que vous allez trouver dans ces notes-là. Moi, je suis pas un... Vous savez, je plaisante un peu, mais j'en suis resté au Game Boy. Bon, avec mon fils, on jouait à la Game Boy assez souvent. Je ne suis pas un habitué des jeux sur PC, en ligne et tout ça. Mais bon, je suppose que ça n'a pas beaucoup changé. Je suis même sûr que ça n'a pas beaucoup changé. Vous savez, ces jeux avec des dragons, des fois plein de trucs comme ça. Et vous êtes dans un monde, et puis vous tuez tout le monde dans ce monde-là. Et puis vous arrivez à la fin, et puis vous trouvez la porte secrète, ou je ne sais pas quoi, le machin secret qui vous fait passer dans un autre monde. Et puis là, vous canardez encore tout le monde. Ou alors vous trouvez la princesse bien-aimée. Ça dépend, il y a des jeux plus sympathiques que d'autres. Et puis vous arrivez de nouveau au puits ou je ne sais pas quoi, et hop, vous passez de nouveau dans un autre monde. L'Apocalypse, c'est un jeu vidéo. Il y a des dragons, il y a un agneau bizarre, il y a des bêtes, il y a des sauterelles avec des queues bizarres qui piquent et c'est comme des scorpions. C'est vraiment incroyable l'Apocalypse. C'est un vrai jeu vidéo. La seule différence, c'est que c'est pas un jeu. C'est que ça renvoie à la réalité. Et l'Apocalypse est construite comme un jeu vidéo. Parce qu'en fait, dans l'Apocalypse, vous avez 7 septennaires. 7 séries de 7 choses. Vous avez les 7 églises, chapitre 2 et 3. Vous avez les 7 sceaux, chapitre 4, 5, 6, 7. Vous avez après les 7 trompettes. Vous avez les 7 signes ou visions. Et quand vous prenez le grec, il y a je vis d'abord la femme et le dragon, vous savez. Je vis une femme et le dragon veut manger la femme, veut manger l'enfant de la femme, et l'enfant est enlevé au ciel, alors le dragon il retombe sur la terre, et puis il poursuit la reste de la postérité de la femme. 7 visions. Et puis après vous avez je vis, et puis une autre vision, puis 7 fois. 7 visions, signes ou visions. Puis 7 coupes, chapitre 15. Versets 5 à 16, 21. Puis 7 paroles sur Babylone. Et finalement, l'aboutissement de l'histoire en 7 visions. C'est super bien structuré. C'est un vrai jeu vidéo. Chaque fois, avec un monde, le monde des trompettes, le monde des visions, le monde... Et pas seulement ça. Pas seulement ça. Parce que vous avez chaque fois une porte. Une porte qui vous fait entrer dans le nouveau monde, dans l'autre monde, dans l'autre série de sept, dans l'autre septénaire. Et cette porte, c'est chaque fois une vision du ciel. Une vision du ciel. Une vision du heaven, là où se trouve le trône de Dieu. Déjà, même avant les sept églises, vous avez une vision du Fils de l'homme, qui a la tête au ciel, les pieds sur la terre, qui tient les sept églises. Cet être pleinement humain, mais pleinement divin, qui apparaît au début, au milieu des sept églises. Mais ces sept églises, c'est comme aussi des réalités qu'on leur double au ciel. Écrit aux sept anges des sept églises. Pas aux sept responsables, aux sept anges. Comme s'il y avait un double céleste des églises au ciel. Puis vous avez le chapitre 4 et 5. Une vision du trône céleste qui introduit la porte. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est le texte. Après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel. Ces gens, la porte du, j'ose pas dire jeu vidéo, ça fait pas sérieux. La porte de la vision de l'histoire de la rédemption. Vidéo, hein, j'en vois. Et puis après, vous avez, avant la nouvelle série, au chapitre, je lis au chapitre... 8. Quand l'agneau ouvrit le septième sceau, on arrive au septième sceau du deuxième septénaire, il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Alors je vis les sept anges qui tiennent devant Dieu, sept trompettes leur furent données. Un autre ange vint, se plaça sur l'autel, il portait un encensoir d'or, on lui remit de nouveau des parfums pour les offrir sur l'autel d'or devant le trône. Une vision du ciel, la porte s'ouvre avec les prières de tous ceux qui appartiennent à Dieu. Et de la main de l'ange, la fumée des parfums s'éleva devant Dieu avec les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. L'ange prit l'encensoir, le remplit de braise ardente prise sur l'autel et le lança sur la terre. Il eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs. Ça, c'est toujours des coups de tonnerre, des voix. Vous trouvez ça tout le temps lorsqu'on présente la porte. Alors les sept anges qui soutenaient les sept trompettes s'apprêtèrent à en sonner. Le premier sonna et vous avez le septénaire qui commence. On est dans le monde des trompettes. Et on arrive à la fin de cette série. Et avant l'introduction des sept visions, chapitre 11, verset 19, « Alors s'ouvrit le temple de Dieu qui est dans le ciel et le coffre de son alliance y apparut. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. » On passe dans un nouveau monde. « Alors un signe grandiose apparut dans le ciel. » C'était une femme, etc. Un dragon et la femme. On passe d'un monde à un autre, en passant par le ciel. C'est quoi ce ciel ? Le ciel ? Le ciel, c'est le quartier général de l'histoire. C'est de là, et c'est là, que tout est organisé, que Dieu commande. C'est là que se trouve ce quartier général de l'histoire de la terre, dans le temple de Dieu. Et alors, ce que j'aimerais montrer, c'est que ce ciel-là a une histoire. Une histoire fantastique. Apocalypse, chapitre 4. Vous connaissez ce texte ? Tellement connu. Après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel. C'est le deuxième septénaire. On a vu d'abord les églises, les sept églises. Ça, c'est sur la terre. Et là, la porte s'ouvre. Et vous avez la première grande vision du quartier général de l'histoire qui s'ouvre. Et la voix que j'avais entendue me parler du début, qui résonnait comme une trompette, me dit « Monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver après cela. » Et cette église. À l'instant, l'esprit se saisit de moi, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un siégeait. C'était celui qui siégeait avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Un arc-en-ciel entourait le trône, brillant comme l'émeraude. Autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur ces trônes siégeaient 24 vieillards, 12 plus 12, 12 de l'ancienne alliance, 12 de la nouvelle alliance. Ils étaient vêtus de blanc et portaient des couronnes d'or sur la tête. Du trône jaillissaient des éclairs, des voix, des coups de tonnerre. Devant le trône brûlaient 7 flambeaux ardents qui sont les 7 esprits de Dieu, le Saint-Esprit dans sa plénitude. Qui est Dieu à l'action dans l'histoire. Devant le trône s'étendait comme une mer de verre transparente comme du cristal. Au milieu du trône et tout autour du trône se tenaient 4 êtres vivants, entièrement couverts d'yeux devant et derrière. Le premier d'entre eux ressemblait à un lion, le deuxième à un jeune taureau, le troisième à le visage pareil à celui d'un homme, et le quatrième était semblable à un aigle en plein vol. La création est représentée devant Dieu par ces êtres symboliques à mes yeux. Qu'on appelle les chérubins, symboliques, parce que lorsque dans Ézéchiel on les présente, ce n'est pas 4 êtres vivants qui ont chacun un visage, c'est 4 êtres vivants qui ont chacun les 4 visages. Donc ce sont des êtres, on les présente une fois comme ça, une fois autrement, ils changent, parce que ce sont des symboles. La création est représentée dans le ciel, la création de la terre devant Dieu, chaque fois par le roi des animaux, le lion, le roi des oiseaux, l'aigle, l'homme, bien sûr, et le quatrième, c'est le jeune taureau, le roi des animaux domestiques. Chacun de ces 4 êtres vivants avait 6 ailes couvertes de Dieu par-dessus, par-dessous. Jour et nuit, il ne cesse de dire, la création qui glorifie Dieu, « Saint, 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 le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Et chaque fois que tous les êtres vivants présentent leur adoration, leur hommage et leur reconnaissance à celui qui siège sur le trône, à celui qui vit éternellement, les 24 vieillards, les deux alliances, se prosternent devant celui qui siège sur le trône et adorent celui qui vit éternellement. Ils déposent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, Seigneur, notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe, l'univers entier doit son existence à sa création et à ta volonté. » Dieu, sur son trône, là où est le quartier général de l'histoire. Alors je vis dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône un livre, écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Il était scellé de 7 sceaux. Le livre est fermé. Le livre de l'histoire de la rédemption. Le livre qui décèle cette histoire. Qui fait que lorsque un sceau s'ouvre, la rédemption a lieu, une étape de la rédemption a lieu. Je vis aussi un ange puissant qui proclamait « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Mais personne, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était capable d'ouvrir le livre ni de le lire. La rédemption aura-t-elle lieu ? Je me mis à pleurer abondamment parce qu'on ne trouvait personne qui fût digne d'ouvrir le livre et de le lire. Alors l'un des vieillards me dit « Ne pleure pas, voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, pour ouvrir les sceaux, le livre et ses sceaux. » Alors je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui se tenait debout, ressuscité. Il semblait avoir été égorgé, crucifié. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. L'agneau s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siège sur le trône. Lorsqu'il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Ils avaient chacun une harpe, des coupes d'or remplies d'encens qui représentent les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. Les prières pour le salut, les prières pour la rédemption, les prières du peuple sur la terre. Seigneur, interviens ! Ils chantaient un cantique nouveau. Oui, tu es digne de recevoir le livre, d'en briser les sceaux. Car tu as été mis à mort et tu as été racheté pour Dieu par ton sang répandu des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, toute nation. Tu as fait d'un peuple de rois, de prêtres au service de notre Dieu et ils régneront sur la terre. Puis je vis et je vois l'ensemble des anges rassemblés en grand nombre autour du trône. Ah là, ils arrivent les anges. Ils n'étaient pas dans le chapitre 4. Là, c'est tout le peuple invisible qui arrive. Il y a de quoi ? Ils étaient des milliers, des milliers, des millions de millions. Ils disaient d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau !» qui fut égorgé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force et l'honneur. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les entendis proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit louange, honneur, gloire, puissance pour l'éternité. Les quatre êtres vivants répondirent « Amen ». Chers amis, il y a 2000 ans, il y a eu un événement extraordinaire, fantastique. Il n'y a pas un de vos jeux vidéo qui atteint la cheville de ce qui s'est passé. Il y a 2000 ans, sur le trône même de Dieu, s'est assis un homme. Au point que lorsque vous priez aujourd'hui Dieu, c'est un homme qui vous écoute. Un homme crucifié, mais debout. Cela n'était pas vrai il y a 2001 ans. Cela est devenu il y a 2000 ans. Jésus, pleinement Dieu de toute éternité, mais pleinement homme depuis qu'il est né de la Vierge Marie. En une seule personne, sans confusion des natures, mais sans distinction, sans rupture dans la personne, cet homme, Jésus, pleinement Dieu, s'est assis sur le trône de Dieu. Et parce qu'il est mort et ressuscité, a pu ouvrir le livre de l'histoire de la rédemption. Le ciel aussi a une histoire. Mais c'est pas tout. Parce que, un peu plus loin, non pas dans ces textes qui nous permettent d'entrer dans un nouveau monde, ces visions du règne, du royaume, du trône, du temple céleste de Dieu, là où est Jésus. Non seulement pas dans ce texte, mais dans un texte qui se trouve au milieu des septénaires, nous avons un autre texte qui nous parle du ciel et qui est fantastique. Chapitre 7, verset 9. Après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'était des gens de... Ah, attendez. J'ai oublié de dire quelque chose. Il s'est assis sur le trône de Dieu, cet homme-là. Et ça a eu des conséquences incroyables au ciel. Apocalypse. Chapitre 12. Apocalypse, chapitre 12. Verset 7. Vous avez là l'histoire du dragon. Verset 1. Alors un signe grandiose apparut dans le ciel, c'était une femme. Elle avait pour vêtement le soleil, la lune, sous ses pieds une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle représente le peuple de Dieu qu'incarnait Marie. Elle était enceinte sur le point d'accoucher, ses douleurs lui arrachaient des cris. Là-dessus, un autre signe parut dans le ciel. Voici, c'était un dragon énorme, couleur de feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes. Chacune de ces têtes portait un diadème. Le dragon, c'est un singe. J'aime bien les singes, mais pas celui-là. Le dragon, singe, l'agneau. Il est comme lui, mais il n'est pas comme. Il n'a pas la même nature. Sa queue balaya le tiers des étoiles du ciel et se le jeta sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher pour dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde, pensait Hérode. C'est ce qu'il a voulu faire à Jésus. Or, elle enfanta un fils, un garçon qui est destiné à diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Son enfant fut enlevé auprès de Dieu. Voilà l'agneau qui monte au ciel et son trône. La femme s'enfuit au désert où Dieu lui avait préparé un refuge pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Alors une bataille s'engagea dans le ciel. Écoutez bien, Michel et ses anges combattirent contre le dragon et celui-ci les combattit avec ses anges. Mais le dragon ne remporta pas la victoire et ne put maintenir sa position dans le ciel. Il fut précipité, le dragon, le serpent ancien, qu'on appelle le diable, et Satan, celui qui gère le monde entier, il fut précipité sur la terre. Il y a 2000 ans, le dragon a été chassé du ciel. Et il descend sur la terre, dit le texte, pour essayer de dévorer les autres enfants de la femme, du peuple de Dieu, que nous sommes. Pensez à l'histoire de Job. C'est quoi ce... Oh là là, je regarde l'heure qui passe. J'ai jusqu'à quelle heure, là ? Marion ? Normalement, 10h15. Oui. Ce dragon, pensait à Job. Quel est le rôle créationnel du dragon, du diable ? C'est une sorte de procurateur créationnel de Dieu qui parcourt la terre et qui dit à Dieu, qui rend compte à Dieu de ce qui se passe sur la terre et qui accuse ceux qui font le mal. C'est ce que Job fait. C'est ce que le diable fait avec Job. Il accuse. Et c'est facile d'accuser des pécheurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé il y a 2000 ans quand l'homme Jésus s'est assis sur le trône de Dieu ? Le dragon ne peut plus accuser. Nous l'avons vaincu, et Jésus l'a vaincu, par son sang, par sa mort. Il a été condamné à notre place. Comment peut-on accuser des gens qui ne sont condamnables de rien ? Il a perdu sa position. Il ne peut plus accuser. Car Jésus s'est assis sur le trône de Dieu. Et voici le chapitre 7. L'histoire du ciel continue. Chapitre 7. Verset 9. Après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'était des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches. Et ils avaient à la main des branches de palmiers. Comme lors de l'Exode, lors de la fête des tabernacles que les Juifs vivaient à Jérusalem, on venait à Jérusalem, les Juifs du monde entier venaient à Jérusalem pour fêter cette fête des tentes, des tabernacles. Et on venait en procession au temple en tenant des branches de palmiers. Ils proclamaient d'une voix forte « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient debout tout autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants, ils se prosternèrent face contre terre devant le trône. Ils adorèrent Dieu en disant « Amen à notre Dieu, soit la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance et l'honneur, la puissance et la force. » Alors l'un des vieillards prit la parole et me dit « Mais ces gens vêtus d'une tunique blanche, qui sont-ils ? D'où sont-ils venus ?» Je lui répondis « Mon Seigneur, c'est toi qui le sais. » Il reprit « Ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau. » C'est pourquoi ils se tiennent devant l'agneau et lui rendent un culte nuit et jour dans le temple. Ils ne connaîtront plus la faim ni la soif, ils ne souffriront plus du soleil ni d'aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux. Il les conduira vers les sources d'eau, il essuiera toute larme. Chers amis, depuis des siècles, le ciel accueille chaque jour ceux qui décèdent en Jésus-Christ, ceux qui viennent de la grande détresse, de la terre, et qui montent au ciel sans leur corps, pour être avec le Seigneur. Et là, l'Apocalypse nous ouvre un coin de ce qui se passe au ciel, alors que l'Ancien Testament était très vague. Là, nous voyons des foules de toutes tribus venir au ciel, là où il y a le trône de l'agneau, pour adorer l'agneau. Et cela, bien sûr, ça renvoie à différents textes du Nouveau Testament. L'apôtre Paul, qui dit « Je ne sais pas ce qu'il faut désirer. Je désire, l'épître aux Philippiens, je désire rester avec vous, mais ce serait bien meilleur pour moi de quitter ce corps et d'être avec le Seigneur, dès maintenant. » Nous avons 2 Corinthiens 5, où l'apôtre Paul dit « Oui, nous savons que notre tente extérieure se détruit tous les jours, mais notre être intérieur se fortifie. Et un jour, nous serons, nous, j'aimerais être avec le Seigneur, dit-il dans 2 Corinthiens 5. Il dit encore plus, je préférerais me revêtir plutôt que de me dévêtir de mon corps. Il attend la résurrection. Mais il sait que dès maintenant, il pourra jouir pleinement de la présence du Seigneur après la mort. C'est notre espérance aussi, ça, de savoir que la mort n'est pas le bout du voyage, mais que la mort nous entraîne dans un exode vers le ciel pour être auprès du Seigneur, dès maintenant. Apocalypse chapitre 6 dit « Je vis les âmes de ceux qui étaient sous l'autel qui criaient « Seigneur, jusque à quand tarderas-tu à faire rendre compte à la terre du sang ?» qui a été versé parmi nous, parmi nos frères, les martyrs. Les âmes, dans la présence du Seigneur, prient le Seigneur et lui demandent d'intervenir sur la terre. Nous savons, grâce à Jésus-Christ aujourd'hui, que la mort, ce n'est pas la fin. Et que dès notre mort, nous jouirons d'une certaine manière, dénudés de notre corps, de la présence de Dieu. Il y a même un texte dans l'Apocalypse qui est plus compliqué, qui a donné lieu à de très nombreux débats. Apocalypse chapitre 20. Un texte qui parle de 1000 ans, d'un règne de 1000 ans. Certains pensent que ce règne est pour l'avenir. Et ils ont des raisons, des arguments pour le penser. Après le retour de Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle la thèse millénariste. Je n'ai pas le temps d'expliquer ce que je pense, mais je n'aurai pas cette façon de comprendre. Parce qu'Apocalypse 20 nous dit que il dit « Je vis les âmes de ceux qui avaient été mis à mort à cause de leur témoignage, les âmes dans le ciel, pas sur la terre. » Il dit « Des trônes leur furent donnés. » Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Je pense que c'est une description de ce que connaît mon épouse, par exemple, qui est décédée il y a 3 ans, enfin plus de 2 ans. Qu'aujourd'hui, déjà, elle jouit dans la présence de Jésus-Christ d'une certaine participation à son règne. Parce que l'entrée dans la mort, c'est pour le chrétien l'entrée dans la vie, une forme de résurrection. Où venant auprès du Seigneur, nous jouissons d'une vie réelle après la mort. Et des trônes nous seront donnés si nous mourons avant que Jésus ne revienne. Et d'une certaine manière, dans sa grâce, le Seigneur nous fait participer à son règne. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il met d'une certaine manière au courant ceux qui sont décédés en Jésus-Christ des choix qu'il fait dans son règne déjà ici-bas. J'ai une grand-mère que j'aime beaucoup. Elle est décédée il y a longtemps. Je sais qu'elle priait beaucoup pour moi. Lorsque j'étais petit, luthérien, Marion, je regarde l'heure. Hein. Bon luthérien. J'allais chez elle, et puis avant de dormir, tout petit, hein, elle avait un grand lit. Donc je dormais dans son lit. Et avant de se coucher, on priait. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. On ne prie plus beaucoup le Notre Père aujourd'hui dans les églises. C'est bien malheureux. Cette grand-mère m'était très chère. Et elle est décédée juste avant que je ne sois confirmé. Je suis convaincu que le Seigneur a dû lui parler de moi. Et lui dire, tu sais Jacques, il est devenu chrétien, c'est mon enfant, il essaye de me servir tant bien que mal sur cette terre. Je suis certain que le Seigneur lui a parlé de moi pour lui dire, tes prières ont été exaucées. Tes prières ont été exaucées, tu sais. Mais ce n'est pas tout. Il y a 2000 ans, un homme s'est assis sur le trône de Dieu. Et c'est un homme qui règne. Jésus, dit les Actes des Apôtres, a été fait Seigneur. Il est devenu Seigneur. Bien sûr, Dieu le Fils a toujours été Seigneur. Mais l'homme Jésus est devenu Seigneur. Il a été intronisé roi. Et un homme règne au nom de Dieu même, puisqu'il est Dieu, sur toute l'histoire de la rédemption. Et cet homme-là nous accueille, jour après jour, lorsque nos frères, nos sœurs décèdent et qu'ils montent au ciel. Le ciel a une histoire, mais ce n'est pas tout. Apocalypse, chapitre 21. Parce que on pourrait se dire, mais est-ce que c'est ça mon espérance ultime? Est-ce que c'est ça qui nourrit ma foi fondamentalement? Et c'est là que l'Apocalypse nous dit non. Ce qui devrait nourrir notre foi fondamentalement, de manière ultime, c'est la fin de l'histoire du ciel et de la terre. Apocalypse 21, verset 9. « Alors, l'un des sept anges qui tenait les sept coupes, l'un des sept derniers fléaux, vint me parler. « Viens, me dit-il, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. » Il m'emmena en esprit sur une grande et haute montagne, montagne de Sion, d'où il me fit voir la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire divine. Son éclat rappelait celui d'une pierre très précieuse, celui d'une jaspe, d'une transparence cristalline. Elle était entourée d'une grande et haute muraille percée de 12 portes gardées par 12 anges, et sur ces portes était gravé le nom des 12 tribus d'Israël. Les portes étaient orientées 3 vers l'est. Verset 14, la muraille reposait sur 12 fondements qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. 12 plus 12, les 24 vieillards. Mon interlocuteur tenait en guise de mesure, et puis on va mesurer toute la Nouvelle Jérusalem. Elle est faite de mesures 12 fois 12 fois 1000, 144 000, toujours les mêmes chiffres symboliques de l'Apocalypse. La ville sainte. Un jour, je parlais de cela. Et quelqu'un me dit, mais ta ville, elle est bizarre. Elle est vachement minérale. Bah oui, elle est faite qu'avec des pierres précieuses. Et puis il me dit, il n'y a personne. Ça m'a fait réfléchir. Et quelle est la réponse? Bah oui, il n'y a personne. Parce que la ville, c'est des gens. C'est l'épouse de l'agneau, la ville. La ville. La ville. Et alors là, les amis, c'est plus un jeu vidéo. C'est rencontre du troisième type. Vous l'avez vu ce film ? Rencontre du troisième type. Oh. C'est le rendez-vous entre les humains et les extraterrestres. C'est un super film, hein. Faut le voir. Vous avez là tous les humains qui ont organisé la rencontre avec une musique spéciale, un code spécial, et vous avez la soucoupe volante qui descend. Waouh ! Vous la voyez descendre. Alors vous êtes 10 minutes dans votre film et vous regardez ça, fantastique, des lumières tout autour, puis après vous voyez des ombres qui les sortent de là. Mais là, ça, rencontre du troisième type de la bibine, ça, c'est une sacrée rencontre. le trône de Dieu, tous ceux qui sont décédés, les anges, tout le ciel descend sur la terre. Il est même dit qu'il n'y a pas de temple dans la Nouvelle Jérusalem parce que l'agneau et Dieu sont son temple. Le quartier général de l'histoire qui est au ciel s'installe sur la terre. L'OTAN débarque à Strasbourg. Dieu installe son trône sur la terre même. L'épouse de l'agneau. Le ciel se marie avec la terre. Quelle est la vérité centrale? Quel est le point tellement important? Oscar Kuhlmann, petit livre qu'il faut absolument que vous lisiez. Tout petit livre. Il y a des choses à redire dans ce bouquin, mais ça va, super bouquin, qui a fait date. Qui dit, le titre du livre c'est « Immortalité de l'âme ou résurrection des corps ?» Point d'interrogation. C'est un livre qui est dans les années 60. Et toute la question, c'est de dire quelle est l'espérance ultime, fondamentale du croyant? Est-ce que c'est l'immortalité de l'âme, c'est-à-dire est-ce que c'est d'aller auprès du Seigneur après la mort, et nous avons vu que le texte en parle? Ou est-ce que c'est la résurrection du corps? Et il me semble qu'il faut affirmer fortement que l'espérance fondamentale du chrétien, c'est la résurrection du corps. C'est ce jour où la création tout entière, Romains chapitre 8, qui souffre les douleurs de l'enfantement. Cette création tout entière qui a été soumise par Dieu à la vanité. Laissez-moi faire une petite parenthèse. Je crois vraiment que l'un des livres de spiritualité les plus extraordinaires de toute la Bible, c'est l'Ecclésiaste. Et que l'Ecclésiaste n'est pas une parole d'un sceptique qui dit bon, il y a Dieu, il n'y a pas Dieu. Non. L'Ecclésiaste, c'est la parole d'un croyant. Va, mange ton pain, prends ton petit déjeuner, réjouis-toi, fais la joie. Prends de la joie avec la femme de ta jeunesse. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le, car tout cela est un don de Dieu. Vanité des vanités. Oui, la création a été soumise à la vanité et à la mort. Et dans cette vanité, nous sommes appelés aujourd'hui à vivre les dons de Dieu, dans l'espérance qu'un jour, le monde entier, la création elle-même, lors du jour de la résurrection du corps, que la création elle-même sera libérée de cette vanité. Et que cette création, l'apôtre Paul dit, la création elle-même connaîtra la liberté des enfants de Dieu. Romains chapitre 8, lisez ce texte. Et c'est là que se pose une question. Et j'aimerais dire quelques mots de cette question qui est fondamentale. C'est qu'attendons-nous? Alors, l'Apocalypse en parle. Mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle création que nous attendons? Est-ce que c'est une création, cette libération de la vanité? Ce temps où le ciel viendra sur la terre, ce mariage entre le ciel et la terre, cette résurrection du corps, c'est quoi exactement? Alors il y a deux thèses. Il y a ceux qui d'un côté disent que la nouvelle création ce sera du tout neuf, que tout ce qui est ancien va être rejeté et que Dieu va créer quelque chose de tout neuf après l'annihilation de l'ancien. D'autres disent non. Il y aura une continuité entre l'ancien monde et le nouveau monde qui vient. Et vous voyez l'importance du débat. Alors, je n'ai pas le temps de passer en revue tous les arguments. J'abandonne même mes notes parce que Marion va me dire que je suis trop long. Quels sont l'argument principal de ceux qui disent que tout va être annihilé et que Dieu va faire du neuf? Il y a deux arguments, il y en a d'autres. C'est que d'abord, il y a des textes qui disent que ça va être une nouvelle création. Apocalypse chapitre 21, c'est dit, « Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, la mer n'existait plus. » Donc on dit « c'est du tout neuf ». Mais là, c'est sortir les versets de leur contexte. D'abord, la suite nous montre bien que ce n'est pas du tout neuf, puisqu'elle descend sur la terre. Mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire, une terre nouvelle? Par exemple, lorsqu'on dit que nous sommes nés de nouveau, que nous sommes une nouvelle créature, lorsque je vais voir ma mère, elle me reconnaît, hein. Et elle sait que c'est le même monsieur que celui qui est sorti de son ventre. Mais je suis une nouvelle créature. Parce que j'ai été complètement changé par l'Esprit de Dieu. Et on peut très bien comprendre la nouveauté à venir, non pas comme de l'annihilation avec du tout neuf, mais comme un profond changement de la réalité actuelle, qui va devenir une réalité nouvelle à venir. Alors il y a un texte. Il y a un texte que les personnes qui disent que la nouvelle création sera une toute nouvelle création, c'est 2 Pierre chapitre 3 qui est souvent cité. Je vous le lis juste. Il dit, le jour, verset 10, où le Seigneur viendra comme un voleur, en ce jour-là le ciel disparaîtra, dans un fracas terrifiant, les astres ou les éléments embrasés se désagrégeront, se disloqueront, dit le texte, et la terre se trouvera dans ma Bible, j'ai jugé, avec tout ce qui a été fait sur elle. Puisque tout l'univers doit ainsi se disloquer, se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et combien vous devez être attaché à Dieu. Comment comprendre ces textes? Il y a d'abord un problème de manuscrit. Si vous avez l'ancienne Bible Second sous les yeux, vous ne lirez pas au verset 10 « La terre se trouvera jugée », mais vous lirez au verset 10 « La terre sera consumée, brûlée, embrasée, consumée ». Le problème, c'est que tous les spécialistes sont d'accord pour dire que les meilleurs manuscrits n'ont pas consumé, mais jugé, sera mise à nu, sera mise en lumière, sera dévoilée. La terre sera jugée, comme tout sera mis en évidence. Le micro sera condamné. La terre sera jugée, sera mise en lumière, en évidence. Et alors, de quel feu peut-il s'agir, hein? Tout sera disloqué. Ben, c'est dit dans la suite de notre texte. Verset 12, en attendant que le jour vienne, ils sont embrasés, mais nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Oh là, ça y est, je ne trouve pas. Et la terre et les œuvres qui seront faites seront... Voilà, verset... Ben voilà, c'est-à-dire, et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle, avec toutes ses œuvres. Le feu qui va intervenir dans le texte ne semble pas être un feu d'abord physique, mais c'est le feu du jugement. La terre sera mise à nu avec toutes les œuvres qui seront faites sur elle, et le feu passera au travers de cela. ce feu du jugement, comme le feu de la Pentecôte, l'esprit des flammes de feu qui est venu pour juger aussi. Pierre parle-t-il d'une annihilation par le feu de l'ancienne création ? Parle-t-il plutôt d'un jugement par le feu de cette création-là ? Et en particulier de la terre qui sera jugée. Et c'est bien, le texte dit qu'il y aura une nouvelle terre où la justice habitera, où les œuvres, ces œuvres-là ne se feront plus. Et l'Épître aux Romains souligne que c'est la terre elle-même, la création elle-même, qui jouira de la libération de l'œuvre que le Dieu produira à ce moment-là. Il me semble qu'on ne peut pas ne pas voir une certaine continuité entre ce qui est actuellement et ce qui sera alors. Et l'Apocalypse le dit très clairement. Les trésors des païens entreront dans la Nouvelle Jérusalem, souligne l'Apocalypse. Dans la terre nouvelle seront comme engrangés tout ce qui sera comme engrangé tout ce qui aura été fait de bien, de juste et de vrai dans l'histoire de ce monde. Le trésor même des nations, la richesse des nations, dit le texte, sera comme engrangé dans cette Nouvelle Jérusalem. Et je vous encourage à lire le livre de Richard Mao, « La culture et le monde à venir », un livre de 100 pages qui est une méditation sur Ésaïe chapitre 60 sur la Nouvelle Jérusalem. J'ai rarement lu un livre aussi fantastique qui a bouleversé ma vie. Richard Mao, M-O-U-W, « La culture et le monde à venir ». Petit livre simple, Richard Mao, « La culture et le monde à venir », une méditation sur Ésaïe 60. Les navires de Tarsis viendront dans cette Nouvelle Jérusalem. Les dromadaires, les richesses du monde viendront dans cette Nouvelle Jérusalem. Et vous savez, il y a une raison théologique à cette continuité entre la terre actuelle et la terre à venir, qui d'une manière ou d'une autre, transformée, bouleversée, transfigurée, ressuscitée, changée, nettoyée, cette terre-là où nous sommes, deviendra le trône même de Dieu. De même que notre corps actuel deviendra le corps de résurrection. C'est ce qui a été semé, dit Paul. Ce n'est pas notre corps, un autre corps. C'est ce qui a été semé qui ressuscitera. Notre corps futur sera le même que notre corps actuel, mais changé, bouleversé, transfiguré, comme Jésus est resté lui-même après sa résurrection. Alors, chers amis, cette dernière étape de l'histoire du ciel a bien sûr une importance pour nous. Pourquoi ? Et il y a des raisons théologiques à ça. Parce que ça veut dire que la création de Dieu qui était bonne au début ne va pas être jetée à la poubelle. Tout ce que Dieu a fait de bon va être conservé. Changé, mais conservé. Le problème de notre création, de notre terre, ce n'est pas la création, elle était bonne, mais c'est le mal, le péché. Et ce dont Dieu va libérer la création, ce n'est pas d'elle-même, mais c'est du mal qui se fait sur cette terre, des œuvres qui s'y produisent. Et ce que Dieu va faire en plus, c'est non seulement de la restaurer, mais de la glorifier, de la changer, de la transfigurer. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le travail de l'éboueur qui nettoie nos rues, cet éboueur que je vois presque tous les matins, et quand je le vois, souvent je fais coucou, quand je rencontre dans la rue, on discute 10 minutes et il fait un travail extraordinaire. Il nettoie nos rues et mes poubelles. Ce travail de l'éboueur aura un écho dans la nouvelle création, parce qu'il y a des bons éléments dans son travail. Ça veut dire que lorsqu'on fait des études, on fait des études dans le sein de la création de Dieu, sur la création de Dieu, et ces études ont un sens.
elles auront un écho dans la nouvelle création. On pourra y accrocher les tableaux de Van Gogh et écouter Mozart. Peut-être aussi certains musiciens modernes, ça j'en suis moins sûr. La nouvelle création engrangera tout le trésor des nations. Tout ce qui a été fait de bien, de beau, de bon, de vrai, de juste, de par la grâce de Dieu, sa providence dans cette histoire, tout cela entrera d'une manière ou d'une autre un jour dans cette création nouvelle, lorsque Jésus viendra sur la terre et que le trône de Dieu sera installé sur la terre. Mon frère a fait des études de médecine, puis il a fait la faculté de Vaux-sur-Seine et s'est trouvé devant un dilemme: être pasteur, être médecin. À cause de cet enseignement, il est devenu médecin. Et il a bien fait, psychiatre. Moi, je crois qu'il faut des pasteurs. Mais c'est beau et bien d'être médecin. On sert Dieu. Il nous faut apprendre à valoriser la création de Dieu. Le ciel est notre espérance, oui. Mais le ciel, un jour, se mariera avec la terre. Alors bien sûr, aujourd'hui, nous allons chercher au ciel ce qu'il nous faut faire. Parce que c'est au ciel que se trouve le Seigneur. Nous abandonnons les membres qui sont sur la terre. Cela veut dire que nous abandonnons les membres livrés au péché. Et nous voulons nous soumettre pleinement à la volonté du Seigneur, comme dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Colossiens. Mais cela, c'est pour vivre ici-bas, sous l'autorité de Jésus qui est au ciel. Ce n'est pas pour fuir la terre, c'est pour vivre célestement sur terre, dans l'attente que la terre devienne le ciel, que le ciel s'installe sur la terre. Notre vie, dans tous ses domaines, a un sens éternel. Si nous la soumettons au Seigneur. Nous allons prier. Notre Père, nous aimerions te remercier pour ce que tu nous as révélé en Jésus-Christ. Nous aimerions te louer parce que c'est Jésus, pleinement Dieu et pleinement homme, qui nous écoute maintenant. Il nous comprend, il nous connaît. Il a travaillé comme nous, il a certainement perdu son père très jeune. Il s'est occupé de sa famille, il a annoncé l'Évangile. Il a été seigneurial dans tout ce qu'il a fait. Divinement et humainement seigneurial. Et nous voulons te remercier, Père, de nous avoir donné un tel Seigneur. Un Seigneur qui reviendra un jour dans son corps de ressuscité, que nous pourrons voir et au travers de ses yeux te voir, Père. Nous pourrons l'adorer, lui, l'homme, Dieu. Nous pourrons un jour connaître une terre enfin libérée du mal, une terre belle, une terre pour laquelle nous voulons nous battre aujourd'hui, pour qu'on reconnaisse sur terre que toi tu es Seigneur. Notre prière, c'est que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Tout cela, c'est déjà le cas au ciel, mais nous te prions que ça devienne le plus tôt possible vrai aussi sur la terre. Nous t'aimons